Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne de la voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi, Surianto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ses auditeurs et auditrices ce soir, le programme commencera par le journaux suivi du commentaire aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente l'appel de l'actualité. Et bien, on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le vice-président Youssef Kalla appelle à la déradicalisation intensive et à la surveillance des citoyens indonésiens déportés de Syrie. Le gouvernement construit 4 projets de pétrole et de gaz 2019 pour améliorer l'économie. L'enseignement de l'indonésien, l'un des moyens efficaces d'introduire l'Indonésie et sa culture aux étrangers. L'Indonésie joue le rôle important de renforcer les relations ASEAN-Chine. Jokowi discutera 3 questions avec Erdogan. Et enfin, l'Indonésie a l'intention d'ouvrir le vol direct vers la Russie. Voici le journal complet. Le vice-président Youssef Kalla a appelé à faire un programme de déradicalisation intensive à des centaines de citoyens indonésiens déportés de Syrie. Cela a été transmis mardi par le vice-président Youssef Kalla aux journalistes à Jakarta. En plus d'un programme de déradicalisation plus intensive, l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, BNPT, est demandée de superviser les activités de certains des citoyens indonésiens afin de prévenir les actes de radicalisme et de terrorisme dans le pays. La première chose est de savoir comment ils reviennent dans la communauté et ont un travail. Et c'est à ce moment-là qu'ils pensent que c'est parce qu'ils ont subi un lavage de cerveau. Maintenant, nous laissons à nouveau. Parce que comment pourrait-ils poignarder brusquement après avoir prié si les musulmans, ils n'étaient pas le vrai musulman? Outre les actes de groupes terroristes, aujourd'hui les actes de terrorisme et de radicalisme ont été faits individuellement avec le thème « loup solitaire », ce qui est différent comme le groupe ISIS et le groupe Abu Sayyaf. Le phénomène des actes terroristes « loup solitaire » est influencé par la technologie d'Internet qui contient un radical. Actuellement, l'Internet n'enseigne pas seulement la science positive, mais aussi fournit une compréhension du radicalisme qui tend à encourager l'action du terrorisme. À travers le contenu d'Internet sur le radicalisme propagé par un groupe terroriste, il est vulnérable à l'émergence des auteurs individuels de terrorisme dont les dangers sont similaires avec des groupes terroristes. Il y a 4 projets de pétrole et de gaz dans les projets prioritaires jusqu'en 2019, tels que le champ pétrolier Abadi dans la zone de travail Masela au Molouk, le champ pétrolier Unitisasi Gas Jambaran Tiung Biru en Java Est, pengembangan Indonesia Deepwater Development dans l'est de Kalimantan et le développement de Tangguh Train 3 en Papouasie. Cela a été dit par le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales. Le vice-ministre de l'énergie et des ressources minérales, Archandra Tahar, a souhaité que les quatre projets puissent augmenter les recettes de l'État, augmenter le développement local et répondre aux besoins de pétrole et de gaz dans le pays.
L'impact terutama ya yang kita harapkan.
L'impact que nous souhaitons est la devise d'État. Le second est le développement régional à Masela. Le troisième, nous souhaitons que nos besoins en gaz puissent être remplis par l'Indonésie. Avec l'augmentation de ces projets, il y aura 7 projets pétroliers et gaziers d'un total de 37 projets prioritaires qui seront faits par le gouvernement jusqu'en 2019. Le gouvernement estime que les projets inclus dans la priorité nationale possèdent la valeur stratégique et peuvent ajouter la plupart des devises du pays. Par conséquent, ces projets seront construits avec la meilleure technologie et la normalisation. La classe des cours d'enseignement l'indonésien de l'été pour les locuteurs étrangers au BIPA de la Faculté de langue et de traduction à l'Université d'Al-Azhar au Caire en Égypte rouverte. L'ouverture de la classe d'été pour la période juillet-août 2017 est réalisée par l'attaché de l'éducation de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Ousmane Shihab, mardi le 4 juillet 2017. Après l'ouverture des classes, Ousmane a affirmé à RRI, cette classe est plus courte que la période précédente car elle coïncide avec la période de vacances des étudiants d'Al-Azhar. C'est pourquoi il a apprécié donc les participants qui se sont inscrits et participent à la classe. Selon lui, introduire l'Indonésie, sa langue et sa culture aux étrangers fait partie de l'attaché de l'éducation. Il a déclaré, l'enseignement de la langue indonésienne est l'un des moyens efficaces d'introduire l'Indonésie et sa culture à la communauté étrangère.
Jadi ini adalah bagian daripada misi diplomasi khususnya di dalam penyebaran.
Donc cela fait partie d'une mission diplomatique en particulier dans le déploiement de l'Indonésie. Je crois que cela fait partie d'un programme efficace parce qu'ils sont devenus des communautés qui aiment l'Indonésie et la culture indonésienne et ils sont familiers de communiquer avec nous et l'un des autres comme frères liés par une culture et l'Indonésie. À cette ouverture, on a transmis des prix pour un certain nombre de participants excellents dans la classe de l'indonésien de la période précédente. Bien qu'ils aient seulement étudié pendant 5 mois, les participants ont été en mesure de lire et d'utiliser la langue indonésienne correctement. Ils sont maîtres des cérémonies, donnent un discours et ont récité un poème en indonésien. Ousmane espère, 21 participants de la période juillet août 2017 peuvent assister à des cours ainsi que d'autres activités. Le secrétaire général du Centre Asien-Chine, Yang Xiuping, a affirmé que l'Indonésie joue un rôle important dans le renforcement des relations et de la coopération entre l'Asie et la Chine à l'avenir. Il est annoncé, Yang Xiuping, à Antara lors d'une visite à Jakarta du 3 au 5 juillet 2017. Yang Xiuping, accompagné par le directeur de la division de l'information et des relations publiques du Centre Asien-Chine, Vitit Powatanasuk, et 7 médias chinois ont visité Jakarta comme partie d'un programme régulier de visites mutuelles entre les journalistes de l'ASEAN et la Chine qui est facilité par le Centre Asien-Chine. L'ancien ambassadeur de Chine à l'ASEAN a déclaré que l'Indonésie, comme l'un des fondateurs de l'ASEAN, avait un rôle important pour promouvoir les relations et la coopération entre l'ASEAN et la Chine à l'avenir. Il a ajouté que tous les pays, y compris 11 pays membres de l'ASEAN et la Chine, ont le problème à résoudre. Cependant, à travers des bonnes relations et une bonne coopération, tout peut être bien résolu. Le président Joko Widodo, dans sa visite d'État en Turquie, discutera trois principales questions avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno AP Marsudi, à Ankara, mercredi, a dit qu'il y avait trois sujets de discussion dans la première visite d'État du président Joko Widodo en Turquie, tels que le développement de la coopération dans le domaine économique par le lancement de partenariat économique global Indonésie-Turquie ou ITCEPA, la coopération du développement des industries stratégiques et le contre-terrorisme. Le président Jokowi, dans son premier ordre du jour, visitera le mausolée d'Atatürk, visitera la plus grande mosquée d'Ankara, Kocha TP qui a été construite de 1967 et 1987. Et il y aura la signature des deux protocoles d'accord tels que la coopération dans le domaine de la santé et le lancement des négociations du partenariat économique global Indo-Truc ou ITCEPA. L'ordre du jour suivant est one-on-one meeting dans laquelle il y a trois réunions d'affaires dans le concept de one-on-one qui sera effectué par le président. Le 6 juillet 2017, vers 18h heure locale, le président Joko Widodo quittera la Turquie en direction de Hambourg en Allemagne pour participer au sommet du G20 2017. Le gouvernement indonésien ouvrira le vol direct de l'Indonésie à Moscou en Russie afin d'attirer plus de touristes russes à visiter l'Indonésie. Cela a été dit par l'ambassadeur d'Indonésie en Russie, M. Wahid Supriyadi, lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères de Jakarta, mercredi. Et Garuda a l'engagement pour voler à Moscou. Garuda Indonesia volera trois fois par semaine à la Russie, deux fois de Denpasar et une fois de Jakarta, qui sera réalisée environ en août 2017. Selon les données du ministère du Tourisme, environ 85 000 touristes russes ont visité l'Indonésie l'année dernière. Cette année, l'Indonésie a fixé un objectif d'attirer 100 000 touristes de Russie. Serditor, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, l'Indonésie a le projet d'avoir une nouvelle capitale de l'État. Le plan à déplacer la capitale d'Indonésie n'est plus un simple discours. Au moins, cela se reflète dans l'affirmation du ministre de la Planification nationale du développement, en tant également le chef de l'Agence nationale de planification du développement, BAPENAS, Bambang Brojonegoro, hier. Il a déclaré que le processus de déménagement de la ville centre du gouvernement ainsi que la capitale du pays pourraient être déboutés en 2018 après l'achèvement de l'étude de déménagement à la fin de 2017. Bien que le ministre ne mentionne pas l'emplacement du nouveau capital du pays, on a révélé largement que le déménagement sera fait hors de Java, à savoir la ville de Palangkaraya, Kalimantan Central. En général, les Indonésiens eux-mêmes ne sont pas tellement questionnés le problème de déménagement. De plus, l'intention est destinée à une meilleure gestion spatiale, à la réduction du fardeau de Jakarta ainsi qu'à l'égalité du développement. Cela a réellement été une pensée ou un discours pendant une longue période à l'époque du premier président de la République d'Indonésie, Soekarno. Est-ce que cela vient de suivre la tendance du monde? On sait que certains pays ont séparé le centre-ville du gouvernement du centre économique, comme le pays voisin de l'Indonésie, Malaisie. Il a Putrajaya qui a été construit de manière moderne depuis 1995. Le déménagement de tous les bureaux du gouvernement de Kuala Lumpur et la construction de logements pour les employés à Putrajaya ont eu lieu de 2000 à 2005. Dans diverses occasions, les responsables de la Malaisie ont déclaré qu'au moins, le déménagement du centre-ville du gouvernement pourrait améliorer les performances de productivité de l'appareil d'État. Bien qu'initialement, il y ait eu des partis opposés en rappelant que le coût était énorme. Comme la Malaisie, les Indonésiens espèrent certainement que l'étude du déménagement du centre du gouvernement et de la capitale de l'État est vraiment mature. De plus, le déplacement de la capitale vers hors de Java est plus envisageable et coûteux par rapport aux autres pays, car il est assez loin et à travers l'océan. Si cela est réalisé, cela encouragera l'accélération du développement de l'Indonésie de manière plus élargie. Au moins, la concentration du développement n'est plus centrée à Jakarta ou à l'île de Java. En outre, cela entraînera également un impact sur la propagation de plus de 200 millions de personnes en Indonésie. Ainsi, la pénurie de ressources humaines dans certaines régions qui a été dénoncée comme la cause de l'arriération de la région peut être immédiatement remplie. Espérons que l'Indonésie et ses progrès devraient faire partie de la solution des problèmes du monde. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs, on écoute quelques événements historiques importants de quelques pays de 6 juillet, entre autres 6 juillet 1975, l'indépendance de Comoro. 6 juillet 1998, l'aéroport international d'Hong Kong, Tiap Lap Kok, a officiellement opéré. Et le dernier, le 6 juillet 2007, le Comité des Jeux Olympiques internationaux a approuvé la fondation des Jeux Olympiques des Jeunesse. Voici l'histoire d'aujourd'hui complète. On commence le 6 juillet 1975, l'indépendance de Comoros. Le 6 juillet 1975, les Comores en forment l'Union des Comores et une république fédérale d'Afrique australe située dans le nord du canal de Mozambique, un espace maritime de l'océan Indien. Le pays a pour capitale Moroni et pour les langues officielles les Sicomores ou Comoriens, parlés par 96% de la population, le français et l'arabe, et pour monnaie, le franc comorien. L'Union des Comores est membre de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La Constitution considère l'Union des Comores composée de 4 îles, dont une administrée par la France. Ce sont les îles autonomes de Grand Comores, d'Anjouan, de Moheli ainsi que Moyette. Cette dernière est considérée comme occupée par la France. Assemblée générale des Nations Unies ayant condamné ce traité de fait par plus de 20 résolutions non contraignantes. Ancienne colonie française, les Comores obtiennent leur indépendance le 6 juillet 1975. <t'-> On change le 6 juillet 1998 et l'ouverture de l'aéroport international Tseb Lapkok, Hong Kong. L'aéroport Tseb Lapkok a été établi pour remplacer l'aéroport Kai Tak et établi sur l'île artificielle près de l'île de Tseb Lapkok et Lam Chau. Elle a la superficie de 12,48 km². L'aéroport Tseb Lapkok est fait par les architectes Foster & Partners et passe le temps de 6 ans à un coût de 20 milliards de dollars. L'aéroport Tseb Lapkok peut accueillir de 45 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises. Après la deuxième piste a été ouverte en mai 1999, la capacité de l'aéroport de Tseb Lapkok a augmenté à 87 millions de passagers et 9 millions de tonnes de fret. Au cours des 5 dernières années consécutives de 2000 à 2005, Tseb Lapkok a reçu le titre de meilleur aéroport. Entre 2006 et 2007, le comité des Jeux Olympiques internationaux a approuvé la fondation des Jeux Olympiques de la jeunesse. Les Jeux Olympiques de la jeunesse ont devenu un événement multisport tous les 4 ans pour compléter les autres Jeux Olympiques et seront suivis par les athlètes âgés de 14 à 18 ans. L'idée de ce Jeux Olympiques jeunesse a été initiée par le président du comité international olympique, Jacques Roch. Le 6 juillet 2007, dans la réunion du Comité national olympique à 119 au Guatemala, en Amérique centrale. Les participants à la session ont approuvé la proposition. Les premiers Jeux olympiques de la jeunesse ont finalement eu lieu pour la première fois en 2010 à Singapour. Ces auditeurs, c'était notre histoire d'aujourd'hui de l'édition du 6 juillet. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie sera l'hôte d'une réunion des ministres de la Jeunesse et des Sports de l'ASEAN ». L'Indonésie est nommée l'hôte de la réunion des ministres de la Jeunesse et des Sports de l'ASEAN et les pays partenaires de l'ASEAN qui aura lieu à Jakarta le 17 juillet 2017. Le haut fonctionnaire de ce ministère, M. Joni Mardizal, a déclaré lundi que cette réunion invitera aussi des représentants du Japon, de la Corée du Sud, et la Chine. C'est une rencontre biennale qui discutera des questions de développement des jeunes, notamment en Asie du Sud-Est et des pays asiatiques en tant que partenaires. La réunion sera ouverte par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi. L'organisateur veut que cette réunion puisse être assistée par le président et vice-président. Le thème de cette réunion est « Proliférer l'esprit d'entreprise chez les jeunes » dans la communauté de l'ASEAN. En plus d'inviter les ministres des pays des membres de l'ASEAN, la réunion présentera également des représentants de la jeunesse. Chaque pays enverra 4 représentants de la jeunesse. En plus de participer à la réunion, les jeunes feront des activités qui ont été programmées. Ils participeront à ASEAN Youth Expo, ASEAN Youth Day Meeting, ASEAN Award et Tayo ASEAN Award. Le ministre Imam Nahrawi organisera des réunions avec le ministre du Japon, de la Corée du Sud et la Chine. Joni Mardizal a déclaré que les jeunes indonésiens ont joué des rôles à la réunion qui souligne l'importance du rôle des jeunes entrepreneurs en compétition dans la communauté économique de l'ASEAN. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le vice-président Yusuf Kalla a appelé à faire un programme de déradicalisation intensive à des centaines de soldats indonésiens déportés de Syrie. Cela a été transmis mardi par le vice-président Yusuf Kalla aux journalistes à Jakarta.
En plus d'un programme de déradicalisation plus intensif, l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, BNPT, est demandée de superviser les activités de certains destins indonésiens afin de prévenir les actes de radicalisme et de terrorisme dans le pays. La première chose est de savoir comment ils reviennent dans la communauté et ont un travail. Et c'est à ce moment-là qu'ils pensent que c'est parce qu'ils ont subi un lavage de cerveau. Maintenant, nous laissons à nouveau. Parce que comment pourrait-il poignarder brusquement après avoir prié si les musulmans, ils n'étaient pas le vrai musulman? Outre les actes de groupes terroristes, aujourd'hui les actes de terrorisme et de radicalisme ont été faits individuellement avec le thème « loup solitaire », ce qui est différent comme le groupe ISIS et le groupe Abu Sayyaf. Le phénomène des actes terroristes « loup solitaire » est influencé par la technologie d'Internet qui contient un radical. Actuellement, l'Internet n'enseigne pas seulement la science positive, mais aussi fournit une compréhension du radicalisme qui tend à encourager l'action du terrorisme. À travers le contenu d'Internet sur le radicalisme propagé par un groupe terroriste, il est vulnérable à l'émergence des auteurs individuels de terrorisme dont les dangers sont similaires avec des groupes terroristes. Il y a 4 projets de pétrole et du gaz dans les projets prioritaires jusqu'en 2019, tels que le champ pétrolier Abadi dans la zone de travail Masela au Molouk, le champ pétrolier Unitisasi Gas Jambaran Tiumbiru en Java Est, pengembangan Indonesia Deepwater Development dans l'Est de Kalimantan et le développement de Tangguh Train 3 en Papouasie. Cela a été dit par le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales. Le vice-ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Archandra Tahar, a souhaité que les 4 projets puissent augmenter les recettes de l'État, augmenter le développement local et répondre aux besoins de pétrole et de gaz dans le pays.
Dampaknya terutama ya yang kita harapkan.
L'impact que nous souhaitons est la devise d'État. Le second est le développement régional à Masela. Le troisième, nous souhaitons que nos besoins en gaz puissent être remplis par l'Indonésie. Avec l'augmentation de ces projets, il y aura 7 projets pétroliers et gaziers, d'un total de 37 projets prioritaires qui seront faits par le gouvernement jusqu'en 2019. Le gouvernement estime que les projets inclus dans la priorité nationale possèdent la valeur stratégique et peuvent ajouter la plupart des devises du pays. Par conséquent, ces projets seront construits avec la meilleure technologie et la normalisation. La classe des cours d'enseignement l'indonésien de l'été pour les locuteurs étrangers au BIPA de la Faculté de langue et de traduction à l'Université d'Al-Azhar au Caire en Égypte rouverte. L'ouverture de la classe d'été pour la période juillet-août 2017 est réalisée par l'attaché de l'éducation de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Ousmane Shihab, mardi le 4 juillet 2017. Après l'ouverture des classes, Ousmane a affirmé à RRI, cette classe est plus courte que la période précédente car elle coïncide avec la période de vacances des étudiants d'Al-Azhar. C'est pourquoi il a apprécié donc les participants qui se sont inscrits et participent à la classe. Selon lui, introduire l'Indonésie, sa langue et sa culture aux étrangers fait partie de la tâche attaché de l'éducation. Il a déclaré, l'enseignement de la langue indonésienne est l'un des moyens efficaces d'introduire l'Indonésie et sa culture à la communauté étrangère.
Jadi ini adalah bagian daripada misi diplomasi khususnya di dalam penyebaran.
Donc cela fait partie d'une mission diplomatique, en particulier dans le déploiement de l'Indonésien. Je crois que cela fait partie d'un programme efficace parce qu'ils sont devenus des communautés qui aiment l'Indonésien et la culture indonésienne et ils sont familiers de communiquer avec nous et l'un des autres comme frères liés par une culture et l'Indonésien. À cette ouverture, on a transmis des prix pour un certain nombre de participants excellents dans la classe de l'indonésien de la période précédente. Bien qu'ils aient seulement étudié pendant 5 mois, les participants ont été en mesure de lire et d'utiliser la langue indonésienne correctement. Ils sont maîtres de cérémonie, donnent un discours et ont récité un poème en indonésien. Ousmane espère, 21 participants de la période juillet août 2017 peuvent assister à des courses ainsi que d'autres activités. Le secrétaire général du Centre Asian Chine, Yang Xiuping, a affirmé que l'Indonésie joue un rôle important dans le renforcement des relations et de la coopération entre l'Asie et la Chine à l'avenir. Il est annoncé, Yang Xiuping, à Antara lors d'une visite à Jakarta du 3 au 5 juillet 2017. Yang Xiuping, accompagné par le directeur de la division de l'information et des relations publiques du Centre Asian Chine, Vitit Powatanasuk, et sept médias chinois ont visité Jakarta comme partie d'un programme régulier de visites mutuelles entre les journalistes de l'ASEAN et la Chine qui est facilité par le Centre ASEAN Chine. L'ancien ambassadeur de Chine à l'ASEAN a déclaré que l'Indonésie, comme l'un des fondateurs de l'ASEAN, avait un rôle important pour promouvoir les relations et la coopération entre l'ASEAN et la Chine à l'avenir. Il a ajouté que tous les pays, y compris 11 pays membres de l'ASEAN et la Chine, ont le problème à résoudre. Cependant, à travers des bonnes relations et une bonne coopération, tout peut être bien résolu. Le président Joko Widodo, dans sa visite d'État en Turquie, discutera trois principales questions avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno AP Marsudi, à Ankara, mercredi, a dit qu'il y avait trois sujets de discussion dans la première visite d'État du président Joko Widodo en Turquie, tels que le développement de la coopération dans le domaine économique par le lancement de partenariat économique global Indonésie-Turquie ou ITCEPA, la coopération du développement des industries stratégiques et le contre-terrorisme. Le président Jokowi, dans son premier ordre du jour, visitera le mausolée d'Atatürk, visitera la plus grande mosquée d'Ankara, Kocatepe, qui a été construite de 1967 et 1987. Et il y aura la signature des deux protocoles d'accord tels que la coopération dans le domaine de la santé et le lancement des négociations du partenariat économique global Indo-Turc ou ITCEPA. L'ordre du jour suivant est one-on-one meeting dans laquelle il y a trois réunions d'affaires dans le concept de one-on-one qui sera effectué par le président. Le 6 juillet 2017, vers 18h heure locale, le président Joko Widodo quittera la Turquie en direction de Hambourg en Allemagne pour participer au sommet du G20 2017. Le gouvernement indonésien ouvrira le vol direct de l'Indonésie à Moscou en Russie afin d'attirer plus de touristes russes à visiter l'Indonésie. Cela a été dit par l'ambassadeur d'Indonésie en Russie, M. Wahid Supriyadi, lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères de Jakarta, mercredi. Et Garuda a l'engagement pour voler à Moscou. Garuda Indonesia volera trois fois par semaine à la Russie, deux fois de Denpasar et une fois de Jakarta, qui sera réalisée environ en août 2017. Selon les données du ministère du Tourisme, environ 85 000 touristes russes ont visité l'Indonésie l'année dernière. Cette année, l'Indonésie a fixé un objectif d'attirer 100 000 touristes de Russie. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des neuf phrases qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, je vais présenter la rubrique magazine culturel et je vais vous présenter une information sur la préparation de Java West pour nommer Ciletu comme le guépard mondial. Le gouvernement provincial de Java West travaille dur pour développer le tourisme de guépard mondial Ciletu à la région de Sukabumi. Afin de soutenir la préparation, le gouvernement sera mis en place une unité régionale de guépard Ciletu. Cette politique a été décidée après la réunion préparatoire de guépard Ciletu, Pelabuhan Ratu, Tenu, à Gedung Sate, Bandung. Le ministère de la Culture et du Tourisme de Jawa West a déclaré que la préparation du guépard atteint 80%. L'assistant régional de pour les affaires économiques et du développement de secrétariat de la province de Jawa West, Denis Juanda, a déclaré que l'unité régionale allégerait techniquement le géoparc Ciletu, étant envisagé comme un parc national en 2015, sous le ministère du Tourisme et de la Culture de Jawa West et la région de Sukabumi. Selon Denis, cette unité a également été formée afin de préparer l'arrivée de la mission d'enquête de l'UNESCO. Ils vont évaluer et vérifier la disponibilité de guépard Ciletu à Pelabuhan Ratu avant de décider son état dans le réseau mondial de guépard ou l'UNESCO Global Guépard à la fin 2017. L'équipe de l'UNESCO va vérifier quelques points à évaluer tous les aspects, y compris l'infrastructure routière dans la région de guépard, les panneaux directionnels et la disponibilité de la guette de direction. Denis a déclaré qu'il préparerait des installations et infrastructures de Ciletu pour être inauguré comme un guépard mondial. Selon lui, l'UNESCO a demandé des détails sur diverses choses, y compris les panneaux de signalisation à la zone de guépard. Il assurait qu'en moins de 3 mois, avant de l'arrivée de la mission d'enquête, toutes les préparations auraient été achevées. Tous les budgets pour la préparation du guépard et l'arrivée d'une équipe de l'UNESCO sont assistés par le budget régional de Jawa West et Sukabumi et par la banque de BJB, l'UNESCO déterminera si le géopard Ciletuh Pelabuhan Ratu soit considéré comme un réseau mondial de géoparcs. En outre, ce géoparc, l'Indonésie a proposé également Rinjani pour être nommé dans le réseau mondial de géoparcs. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditeurs de la Voix de l'Indonésie, je suis ravie de vous revoir dans la rubrique L'Indonésie en couleurs. Dans cette édition, je vais vous présenter une information sur la maison mathématique pour les élèves de Surabaya. Les étudiants de la ville de Surabaya à Java Est, notamment les étudiants de l'école primaire et le collège, ont maintenant un accès facile à faire plus de la connaissance avec des sujets redoutés par la plupart des étudiants, les mathématiques. Le gouvernement de Surabaya a construit une maison mathématique située dans le centre jeunesse. Cette maison, ayant la capacité de 80 étudiants, peut être utilisée gratuitement par les habitants de Surabaya. Elle a été inaugurée par le maire de Surabaya, Tri Rismaharini. Auparavant, il y avait beaucoup d'étudiants qui ont mal connu les mathématiques. Donc, il ressemble que cette étude était un sujet effrayant et difficile. Cela peut être vu en regardant les notes en mathématiques des étudiants à Surabaya qui sont en moyenne moins bonnes. Voilà pourquoi cette maison mathématique a été créée. Le maire de Tri Rismaharini a déclaré que la chose la plus importante était le processus d'enseignement, pas seulement de la note. Les mathématiques doivent être emballées dans un amusant en ce qui concerne la vie quotidienne. Il y aurait des bénévoles du groupe d'études qui seraient devenus les tuteurs dans cette maison. Le processus d'apprentissage commence de 14h30 jusqu'à 16h et 16h jusqu'à 17h30 heure locale. Les étudiants qui veulent étudier activement à la maison mathématique peuvent s'inscrire au centre jeunesse pour ensuite ajuster les horaires. Selon Madame Tri Rismaharini, le concept de l'apprentissage utilise plus de jeux de sorte que les élèves se sentent que les leçons de mathématiques peuvent être appliquées dans leur vie quotidienne. Le président du conseil municipal de l'éducation de Surabaya, Matadi, a apprécié positivement l'initiative de Surabaya pour construire une maison mathématique. Il espère que la maison mathématique devrait également toucher l'esprit de professeurs de mathématiques à Surabaya afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Selon Martadi, pour certains enseignants, le processus d'enseignement est encore plus associé à la méthode de répondre à la question par l'application réelle dans la vie, donc les élèves ne sont pas intéressés. Matadi a aussi l'espoir que la maison mathématique ne soit pas seulement réservée aux étudiants qui sont difficiles à comprendre les mathématiques, mais aussi pour nourrir les élèves qui ont des capacités spéciales en mathématiques, afin que ces études puissent être dirigées au concours olympique au niveau global. Chers amis, voilà cette édition d'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Passons maintenant diversement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et artistes dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id ou à travers notre amateur à écoute sur 9525 kHz. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse talentueuse indonésienne, Lucy Rahmawati. Lucy Rahmawati est née à Jakarta le 4 janvier 1977, a commencé sa carrière avec le groupe de femmes Ebitri, maintenant Bitri. En 2001, Lucy a sorti de ce groupe de femmes qui a popularisé son nom dans le monde de la musique indonésienne. Bon, chers auditeurs, pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Lucy intitulée « Selamanya Padamu ». Bonne écoute.
janjikan berjuta indah angan cinta.
Auditeur, c'était la chanson de Lucie intitulée « Selamanya padamu » qui raconte la présence d'une personne qui apportait un espoir et une rêve. Lucie Rahmawati a lancé certains albums, entre autres « Lucie » en 2001, « Dua Warna » en 2004, « Sexy » en 2007 et « Aku ini punya siapa » en 2009. Bon, chers auditeurs, écoutons la chanson suivante de Lucie Rahmawati intitulée « Menginginkan lebih ». Bonne écoute.
Aku selalu mencoba untuk menahan gejolak jiwaku. Dunia yang penuh cadar bila engkau ada di dekatku. Berteman itu indah, begitulah katamu, dan hatiku takkan setuju. Mungkin
yang kau tak pernah tahu. Diri ini menginginkanmu lebih dari yang engkau tahu. Sesungguhnya aku telah menyimpan cinta.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'est ce mille sur la fin de notre émission en français de la voix de l'Indonésie. Ce soir, donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.